Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Maman, j'ai bien reçu le colis. Gigi, j'ai bien reçu le colis. Le coq est dans la cabane. La cabane est tombée sur le chien.
Oui.
J'ai
oui,
l'impression oui, oui. que tu sais, boum, 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 boum. Oui. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue, bonjour Clémentine.
Et oui, et le colis, en l'occurrence, est une frise avec un arbre généalogique qui représente la généalogie des rois de France.
Ah, vous êtes partie là-dessus, d'accord.
Oui, je suis partie là-dessus. Moi, je ne sais pas quoi vous pensez, mais moi, je reste très concentrée sur l'histoire de France.
Oui, alors aujourd'hui, vous savez quoi, elles se sont inscrites à deux. Ils s'appellent Marie-Claude, elles s'appellent Marie-Claude et Charlotte. Je vais vous les présenter dans un instant. Clémentine, en revanche, sachons tout de suite qu'elles vont gagner l'intégralité des livres historiques Larousse, un ordinateur portable, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et cerise sur le gâteau, ou en plus du clafoutis, comme disait Coluche, eh bien sachez qu'ils partiront pour un séjour de 4 personnes au château de la Balue en Ille-et-Vilaine, membre de la chaîne d'hôtels de charme symbole de France, s'ils arrivent à gagner cette finale. Château de la Balue, laissez-moi vous dire, Clémentine, que nous sommes entre Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, donc entre Bretagne et Normandie, dans ce château du début du 17e, magnifique, que nous avons mis, évidemment, sur RTL.fr.
Mais le cardinal de la Balue, n'est-ce pas cet adversaire de Louis XI qu'il avait enfermé dans ses fillettes pendant des mois ou des années?
Vous voulez dire au cachot?
Oui, au cachot en effet. J'espère que quelqu'un pourra nous le confirmer ou pas.
Bah, je vais demander à une historienne, je demanderai à Clémentine.
Oui, tâchez de trouver quelqu'un de plus compétent, ça serait mieux.
Dites donc, j'en profite pour saluer tout de suite votre mari, mais ça c'est au passage, Manu, donc il y a beaucoup de constance. Et votre fille Marjolaine et Myrtille et tout ça, elles ont eu leurs examens, vos filles, au fait? Parce que vous me faites toujours un état des lieux en fin de saison.
Pour aborder les sujets qui fassent.
Ah voilà, ça y est, c'est parti, yes!
Passons à notre bonus.
Allez, aujourd'hui c'est un bonus estivalus les amis, parce que c'est l'été. Allez, c'est l'été,
je serais curieuse de savoir ce que Louis XI pense de ce bonus.
Il aurait dit c'est l'été au fond de sa fillette, de son cachot, de ses oubliettes, comme on disait à l'époque. Alors, laissez-moi vous présenter nos candidats, Clémentine. Il y a Marie-Claude qui est avec nous. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Laurent.
Dites bonjour à Clémentine, sinon je vais me faire tirer
bonjour
l'oreille.
Bonjour Clémentine.
Bonjour Marie-Claude, bonjour.
Marie-Claude, vous êtes passionnée d'histoire, racontez-moi quelle période vous intéresse.
Généralement, c'est à partir de François 1er jusque la Révolution, en fait tout l'Ancien Régime.
D'accord.
Bon, ça d'accord, vous habitez Nantes en Loire-Atlantique.
Oui.
Vous avez bien de la chance.
Oui, enfin il fait pas beau, mais bon, c'est pas grave.
Ça va s'arranger tout, ça va faire beau cet été. Et vous êtes inscrite avec votre petite fille Charlotte qui a 16 ans. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Charlotte, en classe de seconde, quelle période t'intéresse en histoire? T'es comme ta grand-mère, un peu Renaissance à la Révolution française?
Un peu, mais plus particulièrement Louis XIV, le Premier Empire et Napoléon.
Oui, je comprends cet intérêt.
Voilà, vous savez que lorsqu'elle avait 16 ans, Clémentine était exactement comme vous, Charlotte. C'est-à-dire il y a 2 ans, hein, puisqu'elle vient de passer sa majorité. Bonne chance à toutes les deux, les filles. Vous savez que évidemment il y a ce bonus estivalus, bonus estival. 3 questions vous sont posées relatives à vos affinités historiques et votre situation géographique, c'est-à-dire Loire-Atlantique. Êtes-vous prêtes, mesdames, Marie-Claude et Charlotte?
Oui.
Alors on y va, allons-y du côté de Nantes. Voici la première question. Née à Nantes en 1477, vous voyez que c'est vraiment chez vous, elle épousera successivement 2 rois de France, Charles VII et Louis XII, rattachant ainsi le duché de Bretagne au royaume de France. Qui est cette femme?
Anne de Bretagne.
Bravo, bien joué.
Je ne parlais pas un mot de breton, hein, je le rappelle tout de même.
C'est marrant parce qu'avec Nantes, on dit toujours que Nantes, c'est vrai, ça nous fait penser à la Bretagne, bien que le découpage administratif a fait que ce département, maintenant, c'est la Loire-Atlantique. Hein. Mais proche Bretagne, disons-nous, Clémentine.
Mais attention, soyez précis, hein, lorsqu'on commet une erreur sur les départements, on reçoit
un courrier. Alors écoutez, votre deuxième question, Marie-Claude et Charlotte. Quel général d'Empire, magnifique, né à Nantes en 1770, sommé par les Anglais à Waterloo, de se rendre, aurait répondu par un mot resté très célèbre?
Cambronne.
Bravo.
Oui. Il a contesté avoir dit ça, d'ailleurs. Hein.
Oui,
il est rentré dans l'histoire, je vous l'avais déjà raconté. Hein.
Voici votre troisième question, mesdames. Quel nom porte le campement somptueux, établi en juin 1520 par François Ier pour recevoir Henri VIII, roi d'Angleterre?
Le camp du Drador.
Bravo.
Mesdemoiselles, mesdames, c'est un sans faute, Marie-Claude et Charlotte. Vous voilà équipées d'un bonus estivalus qui est gagné. Je vous rappelle que c'est...
Ah oui. oui, c'est bien celui-là. Ah non, mais laissez-nous le premier.
Vous savez quoi, c'est Dédé, il a mis des tongs à la place de ses moufles ce matin. Non, il est magnifique mon Dédé. Bon alors les amis, voilà. Les filles, vous allez jouer avec un bonus. Dans un instant, on va faire l'intégralité des livres historiques Larousse avec Charlotte. Oh, le Buena Vista Social Club, tchan, à qui? Ça chante sur RTL aussi. C'est le grand quiz, vous écoutez RTL. Et qu'il est 13h40, vous avez raison.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Alors vous savez, c'est comme ça RTL, c'est une grande famille. Il y a mon ami Marc Pellerin qui est passé, qui était l'invité de Christophe Decroix il y a deux secondes. Voilà, vous savez ce que c'est, Clément.
Oui, je sais ce que c'est, je vous trouve un petit peu dissipé.
Oh, car bah, dites-moi, vous avez besoin d'amour, vous voulez que je sois à vos côtés. Allez, Charlotte est avec nous. Charlotte, ça va ou pas, du côté de Nantes?
Oui.
Oui, vous êtes prête, Charlotte?
Oui.
Alors on peut y aller, bien que si vous voulez faire comme Charlotte est en direct sur RTL, vous pouvez appeler Agathe et Mylène, on est en direct au 3210 et vous inscrire pour la rentrée, il n'y a pas de souci. Charlotte, bonne chance, voici ta première question pour l'intégralité des livres historiques Larousse, écoute bien. Au cours des sièges de châteaux forts au Moyen-Âge, on utilisait toutes sortes de projectiles pour se débarrasser des assaillants, au nombre desquels figurait l'huile bouillante ou le sable?
L'huile bouillante.
Et non, alors ça c'est une question piège, car on est tenté de répondre huile bouillante comme toi Charlotte, évidemment, ce qui est logique. Mais en fait, la bonne réponse est le sable.
Eh oui, alors là je pense que cela va en surprendre plus d'un. Mais en effet, on lançait du sable pour que le sable s'infiltre dans les armures et les côtes de mailles. Laurent, jamais on aurait lancé de l'huile bouillante. À l'époque, l'huile d'olive ou l'huile de noix était une denrée extrêmement précieuse et coûteuse. Et on ne se serait pas avisé de la gâcher ainsi en la versant par-dessus le bord.
Voilà, et ça c'est la bonne réponse. Vous voyez, c'était vraiment une anecdote, une anachronie historique que l'on fait tous. Alors en revanche, Clémentine, pendant les croisades, notre période favorite, vous le savez, les Sarrasins utilisaient bien des projectiles incendiaires fabriqués avec du pétrole et du bitume.
Ça c'est exact. Hein. D'ailleurs, pour s'en protéger lors de l'attaque de Jérusalem en 1099, ça aussi nous connaissons par cœur, nous y étions tous les deux.
Oui, absolument.
Eh bien, avec Balion, alors les chrétiens tapissèrent leur tour d'approche de peaux d'animaux fraîchement tués, arrosés de vinaigre.
À part cela, pouvait-on catapulter sur les assiégeants? Qu'est-ce qu'on pouvait leur envoyer comme cochonnerie?
Oh, bah écoutez, vous aviez un vaste choix. Des cadavres d'animaux malades. Oui, ça faisait un petit peu moins de bruit d'ailleurs. Généralement relancés aussitôt que reçus par l'assaillant. De la poix, mais en tout cas, pas d'huile bouillante. Retenez bien ça.
Voilà, l'huile était une denrée trop rare. Charlotte, voici votre deuxième question. Bonne chance. À bord de quel navire Lafayette gagna-t-il les États-Unis pour la toute première fois? Le bateau s'appelait la Victoire ou l'Hermione?
L'Hermione.
Yes, bien joué.
Non, ah bah,
nous voilà avec un
erreur,
point.
C'est une erreur, mon cher Laurent.
C'est la question piège, car il ne s'agit pas de l'Hermione, dont les 50 000 personnes s'apprêtent.
Bah oui. Vous avez l'Hermione trop présente à l'esprit, c'est ça, Laurent.
Avoir la copie fidèle mise à l'eau aujourd'hui même, d'ailleurs, à Rochefort. Mais le tout premier bateau acheté par Lafayette et quelques-uns de ses proches, c'est cette fameuse Victoire.
Oui,
la Victoire.
Alors là, Charlotte, je reconnais, c'est pas très gentil comme question, parce que c'est vrai.
C'était vache. Il y a eu deux questions
c'était
difficiles.
C'était vache. Même Laurent s'y est fait prendre.
Oh
parce
là
que,
là.
En réalité, le tout premier bateau à bord duquel Lafayette a gagné les États-Unis ne s'appelait pas l'Hermione. C'était la Victoire, c'était un autre bateau. Enfin, pour être plus précise, quand il a commandité l'acquisition à Bordeaux de ce bateau qui était un navire marchand, eh bien ce bateau s'appelait la Clary. Hein. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas Lafayette, mais le comte de Breuil, un ami de son défunt père, qui régla le premier versement pour l'achat du bateau.
Ouais, et dans ses mémoires, Lafayette raconte d'ailleurs que c'est à sa demande que la Clary rebaptisée la Victoire, ce sera le 7 mars 77.
Alors, la Clary, la Victoire, qui discrètement le port basque de Saint-Sébastien le 26 avril suivant. Et le premier voyage, Laurent, va durer 7 semaines. Hein. Hier, on s'est un peu accroché là-dessus. 7 semaines.
Tous les deux, hier, on a une grosse discussion.
Lafayette a eu mal de mer pendant 3 semaines. Et le vendredi 12 juin à 14h, la Victoire mouille à South Inlet, près de Georgetown, en Caroline du Sud.
Ouais, alors, si la Victoire était son propre bateau, pourquoi empruntera-t-il l'Hermione pour le voyage suivant, en fait?
Eh bien, cher monsieur, parce que la Victoire va couler près de Charleston le 14 août 77. Et avec lui, toute une cargaison de riz destinée à Saint-Domingue. Parce que Lafayette, il ne s'étend pas sur cet événement dans ses mémoires, mais enfin, ce premier voyage était aussi un voyage d'affaires. Il fallait bien financer l'expédition, les armes, les soldats qui allaient avec.
Ironie du sort, en fait, le bateau avec lequel Nelson gagne à Trafalgar s'appelait aussi la victoire, enfin Victory. Oui, enfin, Laurent, HMS Victory.
C'est gentil de rappeler ce genre d'épisode fâcheux, merci. Mais enfin, ah bah, en tout cas, ça lui a pas porté chance parce qu'il est mort sur son bateau, le Victory de Nelson.
Voici votre troisième question, Charlotte, écoutez bien. Quel grand marin à l'origine des deux seules défaites de l'amiral Nelson, on en parlait, commandait l'Hermione sur laquelle embarqua Lafayette? C'est Latouche Tréville ou du Petit Thouars?
Bonus.
Ah, pas mal. Bonus, allons-y, c'est l'été. Voilà l'été, voilà l'été, ouais.
Bon, que penserait Latouche Tréville de ce bonus?
Du Petit Thouars était le héros de la bataille navale d'Aboukir contre les Anglais, ça c'était en 1798. Mais tous deux appartiennent au panthéon de nos plus grands marins,
Clem. Ça, c'est vrai, Laurent. Et alors, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous évoquons largement l'expédition de Lafayette, car l'Hermione, le bateau dont nous parlons à l'instant, va être mise à l'eau aujourd'hui même à Rochefort. Voilà.
Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance.
Il y aura 50 000 spectateurs, ça va être quelque chose d'énorme. Magnifique. Alors, on a tendance à réduire ce bateau, l'Hermione, à sa qualité de navire ayant convoyé Lafayette jusqu'aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. C'est vrai, mais c'est Latouche Tréville qui commandait l'Hermione, et c'est lui qui réalisa de fantastiques exploits sur ce bateau, comme sur tant d'autres d'ailleurs, avant de mourir le 19 août 1804 à 59 ans, à bord du Bucentaure en rade de Toulon.
Vous faites peur quand vous dites comme ça. Ouh là, j'ai la trouille. Louis-René Madeleine Latouche Tréville était né le 3 juin 1745 à Rochefort, dans une famille de marins. Il entre lui-même dans la marine à l'âge de 13 ans, c'est incroyable. Il va naviguer sur les vaisseaux de son père, le Dragon, et celui de son oncle, la Louise, et participer à plusieurs combats navals à Belle-Île ou encore à l'île d'Aix, alors qu'il est tout jeune homme. Alors par la suite, il sera de toutes les campagnes, Guyane, Saint-Domingue, Dominique, et il se distinguera particulièrement pendant la guerre d'indépendance des États-Unis.
Voilà. Et alors comme il va beaucoup servir au port de Rochefort, c'est pour ça que la ville est très attachée à son histoire et à celle de l'Hermione. Latouche Tréville, vraiment, ça a été un de nos plus grands marins, et Napoléon le considéra lui-même comme son meilleur amiral.
Ouais, et il a pris le commandement, évidemment, de l'Hermione. On en parle beaucoup parce que c'est un voyage que j'aimerais tant faire.
Vous allez certainement voir des images aujourd'hui même.
Oui, c'est magnifique ce bateau. Il n'y a pas encore de gréement dessus, mais la coque est à l'eau et c'est sublime. Les amis, Charlotte, vous avez une bonne réponse sur 3. Utilisez votre joker. 2 bonnes réponses dans un instant pour votre grand-mère Marie-Claude. On va lui souhaiter bonne chance, mais ça dans un instant seulement.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec Marie-Claude et Charlotte, sa petite fille, elles sont avec nous aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est à Marie-Claude de tenter un sans-faute. Vous le sentez, Marie-Claude, ce sans-faute?
Difficilement.
Je mets un peu la pression, histoire de... comme ça.
Oui. Non, c'est pas la peine de mettre la pression.
Marie-Claude, bonne chance. Voici votre première question. Quel célèbre auteur du 19e confiait des mots de passe aux familiers de sa demeure pour éviter les créanciers? C'est Dumas ou Balzac?
Dumas.
C'est l'un ou l'autre en même temps. C'est Balzac qui est endetté sa vie entière par des investissements hasardeux, notamment dans l'édition ou l'imprimerie, et un train de vie qui était, mais alors, fastueux, incroyable, dû fuir ses créanciers sous de faux noms, différentes demeures, Clémentine.
Oui, et sa maison de l'ancien village de Passy, qui de nos jours est précisément le musée Balzac, fut choisie par lui de manière à pouvoir échapper à ses créanciers et aux huissiers. Alors il vient s'y réfugier le 1er octobre 1840.
Et vous savez quoi, il s'installe là sous le pseudonyme de Monsieur de Brenier.
Monsieur de Brognoles, et oui, ouais. C'était tout à fait pratique, car il s'agissait, avec cette maison, de 5 pièces qui donnaient sur un jardin, donc il pouvait éventuellement s'enfuir rapidement si un créancier frappait à sa porte. Alors il va vivre là pendant 7 ans, notre cher Honoré de Balzac, et ce sera le lieu d'un travail acharné, comme il l'écrivit lui-même.
Travailler, c'est me lever tous les soirs à minuit, écrire jusqu'à 8 heures, déjeuner un quart d'heure, travailler jusqu'à 5 heures, dîner, me coucher... et recommencer le lendemain.
Et le cabinet de travail, heureusement préservé, a conservé la petite table de l'écrivain témoin, écrit-il à Madame Anska, la femme qu'il aimait, de mes angoisses, de mes misères, de mes détresses, de mes joies, de tout. Mon bras l'a presque usé à force de s'y promener quand j'écris. Et c'est sur cette table, en effet, que Balzac corrigea l'ensemble de la comédie humaine et qu'il écrivit quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre. Une ténébreuse affaire, la rabouilleuse, splendeur et misère des courtisanes, et oui, la cousine bête, le cousin ponce, etc. etc., etc.
On peut y voir les objets personnels de l'écrivain d'ailleurs, comme la fameuse cafetière ornée des initiales HB, qui permettait de maintenir au chaud l'excitant moderne dont abusa l'auteur de la Comédie humaine. Hein. C'est vrai qu'il en prenait beaucoup.
Alors c'est très touchant, cette cafetière du café de Balzac, parce que vraiment ça lui a usé la santé, il en consommait vraiment outrageusement, mais il y a aussi dans ce musée quelque chose d'autre de très touchant, c'est un tableau qui représente l'ensemble de la généalogie de la Comédie humaine. C'est un tableau de près de 15 mètres de long où sont référencés 1000 personnages sur les 4 à 6000 personnages de la Comédie humaine.
Oui.
Il faut créer 6000 personnages dans une œuvre littéraire romanesque, c'est très impressionnant.
Vous vous souvenez quand je vous ai commenté la tapisserie de Bayeux qui fait 70 mètres de long quand même.
Mais je ne sais pas s'il y a 6000 personnages sur la tapisserie
de Bayeux. Il y en a moins, je sais
compter. Être colibri comme vous.
Elle est une réalisation exceptionnelle permettant de mesurer en fait l'immensité de l'œuvre de Balzac. Ça, c'est à découvrir. Voici votre deuxième question, Marie-Claude. Elle est importante, bien que pas pour l'intégralité des livres historiques Larousse, mais pour la finale et vous donner du temps complémentaire pour cette finale. Écoutez, jusqu'en 1980, hormis les journalistes et les infirmières, la présence de femmes était interdite sur le Tour de France. Jusqu'en 1980. Hein. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux parce qu'il y avait Yvette Horner qui était sur le Tour de France.
Alors écoutez, c'est vrai. C'est vrai et on va vous donner les détails.
C'est vrai, c'est l'écrivain Colette qui fut la première femme autorisée à suivre le Tour de France 1912 comme journaliste. Mais elle va rester pendant fort longtemps une exception. En fait, ce qui était prohibé en particulier, c'était la présence des femmes de coureurs.
La première femme de coureur admise exceptionnellement sur le Tour sera une certaine Madeleine Pélissier en 1931. On va la surnommer d'ailleurs la Pélissette. Son mari était un grand champion qui fut vainqueur de 16 étapes. Mais là, on est entre 1929-1935. Donc le patron de la course ferma les yeux sur la venue de cette femme, en fait.
Mais alors, c'est seulement en 1934 que participe la première femme reporter officielle. Elle est reporter à Paris Soir, et puis, bon, par la suite, il y en aura quelques autres. Une journaliste australienne qui sera autorisée à suivre le Tour de 1937. Mais c'est déjà une vieille dame, donc on s'en méfie pas trop. Encore en 1948, il y aura également une envoyée spéciale de l'Humanité qui sera
autorisée. Le règlement fut longtemps drastique. Une femme en dehors d'une infirmière ou d'une journaliste accréditée ne pouvait suivre le peloton.
Oui,
c'est ça,
voilà, tout à fait. Voilà ce qu'écrivait à l'époque un reporter de Sport Sélection.
Ah, heureuse époque où me ramènent toujours mes pensées. Les dames étaient bannies de la caravane par règlement quasi-militaire qui était à la fois un hommage au beau sexe et le pouvoir troublant, voire dissolvant qu'on lui connaît, si l'on en croit les rumeurs de couloir, un abus d'autorité inqualifiable.
J'aime bien le pouvoir dissolvant des femmes.
Bon, alors c'est pas énorme.
Dans le chapitre que Jean-Pierre de Mondenard consacre aux femmes sur le Tour dans son livre Tour de France, histoire extraordinaire des géants de la route, la surprise la plus inattendue, c'est la présence en 64 de Dalida, qui, elle, va suivre le 51e Tour de France.
Alors écoutez, la question était posée de telle façon que j'ai peut-être envie de donner quand même... moi, je vais donner... Vous savez quoi
Vous êtes gentil.
Non, je vous en prie, parce que je me rends compte qu'en fait, effectivement, hormis... C'est vrai que dans la question, hormis les journalistes et les infirmières, mais la question était tendancieuse. Ça nous permet de faire un petit point sur le Tour de France qui nous amuse beaucoup, puisqu'on est en plein Tour de France. On va le retrouver dans un instant, d'ailleurs. Je vous donne cette... je vous donne ce point, voilà. Point.
Merci, Laurent. Merci, Clémentine.
C'est mon immense bonté du jour. C'est estival, c'est pour ça. Les amis, on va se retrouver dans un instant avec nos deux compétitrices, Marie-Claude et sa petite fille Charlotte, du côté de Nantes en Loire-Atlantique, dans un moment seulement pour l'ordinateur portable. Ce sera pour Charlotte qui a 16 ans, j'en suis persuadé. Mais sur RTL, il est 14h.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Re-bienvenue sur RTL, si vous étiez avec nous, merci d'y rester. Vous êtes en overdose d'histoire de France avec
overdose,
le grand quiz.
Est-ce que
j'ai une tête d'overdose? L-O-V-E-R, Clem. Vous me regardez pas comme ça.
Oh, vous êtes trop subtil, on va faire des groupes de niveau. Hein.
Marie-Claude et Charlotte jouent avec nous, c'est la grand-mère et sa petite-fille. Et c'est Marie-Claude qui va jouer tout de suite pour l'ordinateur portable de sa petite-fille, je présume. C'est ça, Marie-Claude?
Oui, bien sûr.
Ah oui, ça c'est bien joué. On va jouer sur une question, ça m'intéresse l'histoire. Vous savez, c'est notre partenaire dans le Grand Quiz des Histoires de France. On aime beaucoup lire cette revue. Êtes-vous prête, Marie-Claude?
Oui, je suis prête.
Alors on y va, écoutez bien. Tiens, attends. 2 secondes, Marie-Claude, ça va mieux. Qu'appelle-t-on la ligne verte? Le trajet autour du monde de James Cook ou la ligne coupant Chypre en deux?
Je sais pas.
ça n'est pas une réponse.
C'est pas la réponse. Allez, ben faites-le au hasard.
Allez, à l'intuition, au feeling. La ligne verte.
La ligne verte.
Trajet autour du monde de James Cook ou ligne coupant Chypre en deux.
Marie-Claude.
James Cook.
Oh. Et non.
Il s'agit d'une ligne coupant Chypre.
Je ne savais pas.
Mais c'est pour ça qu'on apprend des trucs dans le Grand Quiz Histoire de France. Depuis 1974, hein, Turc au nord, Grec au sud.
Alors, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que notre réalisateur nous met la même musique quand on fait les croisades, avec Valion occupant Jérusalem et la ligne verte à Chypre qui sépare les Turcs des Grecs depuis 1974. Mais ça va très bien. Alors, on construit des murs de protection, de séparation depuis des temps immémoriaux. Et le plus ancien de ces murs a été...
Murs,
oui,
oui,
il a été retrouvé en Syrie, Marie-Claude.
Oui, c'était murs,
et ce mur-là, il date de 4000 ans et il faisait 220 kilomètres de large en Syrie.
Ouais, les plus célèbres des murs antiques, d'ailleurs, sont la Grande Muraille de Chine, hein, qui a été bâtie au IIe siècle avant Jésus-Christ pour se protéger des invasions des peuples des steppes. Le mur d'Adrien, les limes romains, d'ailleurs, qui devaient protéger des barbares.
Qui s'est sur la Grande Muraille. Ah non, mais écoutez, moi, je veux bien qu'on soit en vacances, mais il y a quand même des limites.
Non, je parlais des limes romains, Clémentine. D'ailleurs, à l'origine, dites-moi le mot latin murus. Qu'est-ce que ça désignait, tiens?
Ah non, mais écoutez, murus, ça désignait l'enceinte d'une ville, et puis après, c'est devenu le mur de la maison. Alors, c'est, l'utilisation de ce genre de mur n'a jamais cessé, et au XXe siècle, on en a construit quelques-uns. Le fameux mur de Berlin, qui a été détruit depuis, bien sûr. Aujourd'hui, on compte 22 000 kilomètres de murs de séparation sur la Terre. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant.
Il y a donc la ligne verte de Chypre, le mur de sable entre le Maroc et le Sahara occidental, la ligne de contrôle qui sépare l'Inde du Pakistan au Cachemire, la clôture des territoires palestiniens en Israël, et le mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher l'immigration clandestine. Vous savez, ce grand mur qui a été construit avec des barbelés au-dessus.
À retenir, il n'y a jamais eu autant de murs de séparation dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez en lire davantage dans Ça m'intéresse l'histoire. Faut-il des murs entre les hommes?
Voici votre deuxième question. Bonne chance à vous, Marie-Claude. Est-ce que vous êtes prête, Marie-Claude?
Oui.
Écoutez bien. Pourquoi Micheline Bernardini se fait-elle remarquer le 5 juillet 1946? Elle est la première femme élue ou elle est la première à porter un bikini? Micheline Bernardini.
À porter un bikini.
Oui.
Mais elle aurait aussi pu être la première femme élue à porter un bikini.
Voilà, on fait doublette. C'est la première femme en bikini. Cela se passe lors d'une présentation à la piscine Molitor, porte d'Auteuil à Paris. Quel bon endroit.
La piscine Molitor, c'est pas une piscine inaugurée par Johnny Westmuller.
Vous y étiez.
Alors, le bikini, ce maillot de bain deux pièces, c'est une invention de Louis Réard, qui n'était pas du tout couturier, mais au contraire, il était ingénieur automobile.
Vous savez, c'est pour le profilage. Vous voyez ce que je veux dire.
Alors, il décide donc de se tourner vers la création de vêtements de bain.
Oui, voilà. Le bikini était très osé pour l'époque, vous imaginez. Aucun mannequin n'avait accepté de le porter. Et Micheline Bernardini était danseuse nue au casino de Paris. On comprend mieux que les feuilleuses avaient besoin de se masquer un peu.
Exactement. Alors, le nom bikini est alors dans l'actualité parce que les États-Unis ont fait exploser une bombe atomique sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique le 1er juillet précédent. Alors, le créateur Jacques Haim avait déjà présenté un modèle de maillot de bain deux pièces baptisé Atome. C'était sexy, dites donc, quelques années auparavant. Mais son maillot était très large et couvrait presque autant qu'un maillot ou une pièce.
Il y a Mike Hammer derrière qui joue du sax.
T'as vu, j'ai mis mon atome.
Le bikini fait son apparition sur les plages dès 1949, Clément.
Alors oui, il est aussitôt interdit en France, en Espagne, en Italie. Il est tellement diabolique que l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, écrit que les chevaliers de l'Apocalypse apparaîtront certainement vêtus d'un bikini.
Ouais, c'est dans l'Espagne de Fronto que le bikini sera finalement d'abord autorisé. C'est ce qui est incroyable.
Ça paraît paradoxal, oui, mais c'est le maire de Benidorm, un village balnéaire de la région de Valence, qui prend un arrêté pour autoriser le bikini sur les plages de sa ville, espérant ainsi attirer les touristes. Ça va fonctionner, et le bikini voit peu à peu les interdictions se lever.
Et vous savez, quand le bikini a été popularisé, en fait, c'est grâce au cinéma.
Oui. Ah bon, moi je croyais 62. Que c'était Dalida qui avait chanté son truc, là, un tout petit bikini.
Bikini, non, en 56, écoutez bien, en 56, Bardot, Brigitte de son prénom, et là, son bikini, écoutez, voilà la musique dans Et Dieu consacrée à la femme. Vous voyez,
d'accord, oui, ah bah je
en 62,
oui,
oui. Ursula Andress, vous vous souvenez, oui, comme elle jaillit en bikini, oui, blanc dans James Bond contre Dr. No. Oui, franchement.
Bon, alors maintenant, le bikini, ça ne fait plus aucun effet à personne. Hein. Maintenant, on est même passé au micro-kini, au mono-kini.
On est à poil.
Et puis là, il y a encore un autre truc, c'est le bikini, je crois. C'est-à-dire que c'est mi-bikini, mi-deux pièces. C'est assez étrange.
Bah, le bikini, c'est le bikini, Clem.
Non, non, là, c'est autre chose. C'est une pièce avec un bout de bikini.
Vous pouvez mettre votre pareo, là, s'il vous plaît. Vous n'allez pas rester en bikini. Voici votre troisième question, Marie-Claude. Vous êtes prête? Allô, Marie-Claude, j'ai perdu, dis donc. Un point pour l'ordinateur portable pour l'instant. Quel est le premier roi représenté sur la première monnaie française en francs? C'est François Ier ou Jean II le Bon? J'ai rien dit. Quel est le premier roi représenté sur la première pièce de monnaie française en francs? François Ier ou Jean II le Bon? Qu'est-ce qu'on me dit, Marie-Claude? Un souci de... C'est le téléphone qui... Allô, Marie-Claude, vous m'entendez? Mais rapprochez-vous de votre téléphone. Bon, alors, c'est, à votre avis, c'est Jean II le Bon ou François Ier? François Ier, vous dites? C'est ça? C'est Jean II le Bon.
Alors!
Mais il a eu bien des soucis durant son règne, Clémentine.
Oh oui, parce qu'il arrive sur le trône en 1350 en pleine guerre de 100 ans et les grands seigneurs en profitent pour s'affranchir de son autorité. Il y a en même temps la peste qui ravage le royaume. Et puis pour couronner le tout, Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers en 1356.
Oui, il est emmené en captivité à Bordeaux puis à Londres durant son éloignement du pouvoir. On relâche d'ailleurs un ennemi qui l'avait fait arrêter, c'est Charles de Navarre. Hein. Dit Charles le Mauvais, c'est ça.
Alors, le malheureux Jean le Bon n'a qu'une envie, c'est de regagner son royaume. Donc, il précipite les négociations pour être libéré et il est obligé de céder beaucoup de terrain, donc paiement d'une énorme rançon. Et c'est pour payer cette rançon qu'est créée une monnaie sur laquelle figure le roi à cheval, avec en dessous la formule latine Francorum Rex. Cette monnaie, dite le franc à cheval, est le premier franc.
Alors, en attendant de payer la rançon, Jean avait laissé en échange deux de ses fils et son cousin Philippe d'Orléans.
Oui, c'est alors, chrétien, comme ça, il a eu beaucoup de mal à payer l'énorme somme, et l'un de ses fils trouvant le temps long, va finir par s'évader. Jean se rend alors à Londres pour se constituer prisonnier, et voilà qu'il déclare.
Si la bonne foi était bannie de la terre, elle devrait trouver asile dans le cœur des rois.
Voilà. Et trois mois plus tard, il meurt à Londres, figurez-vous. Hein. Son corps est quand même restitué à la France, il est inhumé à Saint-Denis, mais il est allé se livrer pour compenser la félonie de son fils qui s'était évadé.
Marie-Claude, vous avez un point pour l'ordinateur portable, oui. Ce qui fait que votre petite fille Charlotte, dans un instant, va avoir un challenge et sait répondre correctement aux deux questions pour obtenir son ordinateur portable. Mais ça, c'est dans un instant seulement.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Merci d'écouter RTL. Elle s'appelle Charlotte, elle est avec sa grand-mère Marie-Claude, elles habitent du côté de Nantes en Loire-Atlantique. Et cette fois-ci, c'est Charlotte qui joue deux questions. Pas de faute, hein, Charlotte, pour avoir l'ordinateur portable. Est-ce que t'es prêt, oui. Charlotte?
Oui.
Ouais. Alors on y va, voici cette première question. Quelles précautions Chopin prit-il pour être sûr de ne pas être enterré vivant? Il a demandé que l'on prélève son cœur ou qu'on le plonge entièrement dans une baignoire. C'est tout Chopin, ça?
Oui, ça c'est sûr, oui.
Pour être sûr de ne pas être enterré vivant.
Qu'est-ce qu'on ferait plus spontanément pour être sûr de ne pas être mis...
Moi, je me mettrais dans une baignoire vivante, mais... Enfin...
Ah non, mais voilà.
Mais
il a
pris... Je pense que ce serait plutôt le cœur.
Oui,
voilà,
c'est ça.
Voilà, ça, c'est une bonne réponse. Clémentine, je devrais vous appeler Clémence aujourd'hui.
Oui,
il a demandé que l'on prélève son cœur et que l'on envoie son cœur en Pologne. Hein,
une fois
Chopin.
Mort, Charlotte, vous avez bien compris. Hein,
oui,
et
bah
alors,
bien
sûr. Alors, le cœur de Chopin se trouve dans l'église Sainte-Croix de Varsovie et son corps se trouve au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et Chopin avait la phobie d'être enterré vivant. Vraiment, ça le taraudait. Et donc, il a demandé à ce que l'on pratique l'exérèse, c'est-à-dire qu'on ôte son cœur lors de sa dépouille, une fois qu'il serait mort. Et finalement, donner ce cœur à la Pologne, c'était aussi une façon d'honorer le pays natal de Chopin, c'est ça. Bien sûr.
Il est mort assez jeune, il avait 39 ans, Chopin.
Emporté par la tuberculose, hein, et sa longue fin, c'était assez tragique, parce que, d'une certaine manière, c'était une attraction du tout Paris, donc des femmes du monde venaient voir ce malheureux génie s'éteindre progressivement et s'évanouissaient de désespoir. Et le tout a été croqué par des dessinateurs qui immortalisèrent ce moment.
Ouais, quand son agonie a vraiment commencé, c'était le 15 octobre 1849. En fait, les curieux ont été chassés.
Bon, oui, hein, écoute, c'était quand même le minimum qu'ils puissent mourir dans l'intimité. Mais alors, Chopin réclamait de la musique. Il voulait mourir en musique. Alors, on a apporté un piano près de son lit et des amis, sa sœur Louise notamment, se sont relayés pour jouer du piano jusqu'au dernier souffle de Chopin. Et la dernière œuvre qu'il réclamait, c'était sa sonate pour piano et violoncelle. Et Chopin s'éteint le 17 octobre à 2h du matin.
Voici votre deuxième question, Charlotte. C'est pas mal. Hein.
Allez,
il faut répondre correctement à celle-là et ton ordinateur portable est gagné, Charlotte. Écoute bien, bonne chance. C'est en France que sont apparus les premiers congés payés. C'est vrai ou c'est faux?
Bon, il faut savoir que la France est un pays un petit peu à la traîne en matière sociale.
Qu'est-ce qui se passe,
Clémentine? C'est les vacances.
Ah oui?
Les congés payés.
Ah, vous voulez dire que les... Ah oui, c'est les vacances.
Alors,
c'est pour ça qu'on a fait la question en même temps. Mais, c'est vrai que la France a souvent plus de retard. Enfin bon, c'est arrivé dans certains cas.
C'est pas tout. Non, c'est pas le premier pays.
Voilà, mais bravo!
Excellente inspiration!
Vous avez une excellente...
Oh bah dites donc, je ne sais pas si ça vaut quand même un petit beau décroissant.
Non. Et vous avez une excellente expiration. Ouais, vous pouvez lui dire merci, là, Charlotte.
Merci.
Je t'en prie. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, Charlotte. C'est faux. Ah, oh, j'adore cette musique. C'est bien, c'est les congés payés, ça, c'est
siffler
parfait.
Siffler en travaillant,
mais oui.
Travailler en sifflotant.
Les premiers congés payés en France, 2 semaines. Écoutez bien, date de 36, ça c'est sûr, du millénaire dernier, donc du siècle dernier, et sont dus au gouvernement du Front Populaire. Certes, mais la France est alors en retard sur d'autres pays, Clémentine, vous l'avez dit.
C'est précisément ce que je voulais discrètement signifier, parce qu'effectivement, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, le Chili étaient des pays où les congés payés étaient en place depuis plusieurs années. En Allemagne, cela avait commencé au début du siècle avec des accords dans des conventions collectives.
Absolument. Il y avait d'ailleurs eu des initiatives en ce sens en France dans les années 20. Hein,
oui,
ça avait commencé
avec
Clem.
C'est vrai. Enfin, en tout cas, en France, c'est vraiment 36 et Léon Blum. Hein.
Bon, c'est lui qui instaura d'ailleurs de manière plus générale les congés payés vraiment sur 36, hein, comme on l'avait dit. Enfin, il y a plus d'infos encore sur RTL.fr. Hein, les suppléments de Madame Clémentine, comme on dit, Madame Plus. Bravo, Charlotte. Vous avez gagné votre ordinateur portable, Charlotte. Elle se marre. C'est bien joué. Elle revient pas elle-même. Bien joué, Charlotte, pour la finale.
Le corps plongé dans une baignoire de Chopin.
Des places Chopin.
Et pas celui d'Archimède.
50 secondes pour la finale, Charlotte. 50 secondes pour cette finale. Dans un instant, 3 questions et vous partez en Ille-et-Vilaine dans ce magnifique château qu'on a mis sur RTL.fr. Évidemment, séjour pour 4 personnes. Concentrez-vous, les filles. Marie-Claude et Charlotte à Nantes. On vous retrouve dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec Marie-Claude et Charlotte qui habitent Nantes en Loire-Atlantique, elles ont 50 secondes pour la finale qui les emmènera, nous leur souhaitons évidemment, au château de la Balue en Ille-et-Vilaine, entre Normandie et Bretagne, on vous l'a dit, entre Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Magnifique château, séjour pour 4 personnes, les filles. Êtes-vous prêtes?
Oui,
hein, vous souhaitez.
Oui, on est prêtes.
Charlotte et Marie-Claude, bonne chance du côté de Nantes. On y va, 50 secondes, c'est parti?
On y va.
Allez, c'est parti. Que signent 56 délégués réunis à Philadelphie le 4 juillet 1776 ?
La déclaration d'indépendance...
Très bien. Bravo, très bien, Charlotte. Quelle bataille est remportée par l'armée française le 5 et 6 juillet 1809 à quelques kilomètres au nord de Vienne ?
1809. Hein.
Bon, donc l'Empire Napoléon.
Alors une grande victoire de l'empereur qui a donné son nom d'ailleurs
à une avenue.
Il y a une avenue qui départ des Champs-Élysées.
Non, de l'Étoile.
Oui.
Wagram.
Merveilleux.
Quel grand résistant décède dans le train qui l'emmène en Allemagne le 8 juillet 1943? C'est une date évidemment commémorative.
Le 8 juillet 43, un résistant
décédé.
Qui meurt dans le train, dans son transfert entre Paris et l'Allemagne. Le premier qui vous vient à l'esprit est le bon. Allez-y.
Jean Moulin.
Oui, bravo.
Bravo.
Bon, vous avez gagné, les filles, à 2 secondes près. 48 secondes.
Bravo, Charlotte.
Bravo Charlotte, oui, Charlotte, 16 ans, qui joue avec sa grand-mère. Bon, vous partez au château de la Balue en Ille-et-Vilaine.
Oh, merci,
pour 4 personnes. Ça va être bien, ça, les filles. L'ordinateur est gagné pour Charlotte, hein. Ça, c'est une bonne chose.
Merci.
Ah, oui, ça fait du bien. Vous nous enverrez une petite carte postale cet été à Clémentine et moi-même, ça nous fera plaisir.
Ah oui, on vous envoie une carte postale.
Et vérifiez si le cardinal de la Balue, bien ça, hein. Oui,
oui, oui. Okay. Oui, oui, avec
les
fillettes.
Les fillettes. Clémentine, on se retrouve à la rentrée, ma belle.
On se retrouve à la rentrée.
Passez un bel été, ma jolie.
Bonnes vacances.
J'embrasse Marjo et Monsieur Manu qui était là. Hein, votre famille, Agathe, Thomas, merci. Merci Dédé, merci Véro pour cette émission. Inscrivez-vous à RTL.fr. Vous pouvez, quand vous voulez, tout au long de l'été, revoir, réécouter ces émissions quand vous le désirez et relire, évidemment, les questions et les réponses sur RTL.fr. Bel été à toutes et tous. Nous, on se retrouve avec des best-of du grand studio humour tout au long de l'été. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Éric Jean-Jean. Éric Jean-Jean, sa liste préférée aujourd'hui, c'est le masterpiece Georges Lang, l'AMT.